voix nue. Cette semaine, Anaëlle Pijat rencontre Hervé Di Rosa. Ce soir, à 7 dans le quartier haut.
Sa volubilité est presque légendaire, la diversité de ses activités artistiques aussi. Hervé Di Rosa est né à Sète en 1959, une ville qu'il a marquée au cœur, où il passe encore très régulièrement et dont il a toujours gardé l'accent du Sud. Dans ses jeunes années, il était punk et fervent lecteur de comics américains. Assez vite, il est clair qu'il deviendra artiste. Avec ses camarades de cordée, il voulait se démarquer de l'art conceptuel et de l'art minimal. Il a été l'un des fondateurs du mouvement de la figuration libre. La caractéristique de ses peintres était de produire des images simples, très colorées, inspirées de la publicité et de la bande dessinée. Hervé Di Rosa a repris son indépendance pour tracer son chemin. Son travail est depuis longtemps salué par la presse, par des galeries prestigieuses de Londres à New York et par les plus grands musées, le musée du Quai Branly, la piscine de Roubaix, la Maison Rouge ou encore le musée d'art contemporain de Mexico. Aujourd'hui, il est peintre, céramiste, graveur, dessinateur, mais aussi collectionneur, voyageur, observateur. Il est le penseur des arts modestes, qu'il a baptisé à partir du lapsus d'une enfant. Il en a aussi été le diffuseur dans une boutique puis une galerie. Et il est aujourd'hui le directeur du Musée international des arts modestes qu'il a créé à Sète, le MIAM. Il aime la Grèce et vit actuellement à Lisbonne. On le dit souvent optimiste et généreux. Il est pétillant, ambitieux, stakhanoviste aussi. Il dit souvent qu'il s'ennuie vite et ne se cache jamais d'une certaine mégalomanie. Hervé Di Rosa, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir dans votre atelier parisien, l'un de vos ateliers qui est peuplé de sculptures totems, d'ex-voto, de peintures de vous, de livres. Mais commençons par le début. Votre famille était installée à Sète, qui était alors une ville à la fois ouverte sur le monde par son port, mais aussi relativement isolée. Plus particulièrement, vous viviez dans le quartier haut. Quelle était l'identité de ce lieu ?
Il faut bien se remettre dans le, au XXe siècle. Souvent, je suis obligé de faire cet exercice mental parce que la vie n'était pas du tout la même. La manière de se déplacer, de connaître les choses n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Et en plus, beaucoup de gens ont des souvenirs d'enfance et tout ça. Moi, j'en ai très peu et j'ai pas de très bons souvenirs de la petite enfance. Donc, peut-être que j'ai oublié ça. J'ai le souvenir, le quartier haut, c'est le quartier, enfin, un peu moins aujourd'hui, puisque ça a été racheté par les Parisiens, comme on dit à Sète, qui rachètent les appartements du quartier haut. Enfin, ça s'exagérait aussi, c'est pas tout à fait comme ça. C'est le quartier où les émigrés italiens sont installés à la fin du 19e siècle, qui sont arrivés comme mon arrière-grand-père, le papa de mon grand-père, Jean Di Rosa, qui sont arrivés à la fin du 19e, vers 1893, et qui se sont installés dans le coin. Et en fait, c'est le début de la colline, puisque Saint-Clair, la particularité, c'est que c'est au pied d'une colline qui s'appelle Saint-Clair, et qui est le seul lieu un peu en hauteur de tout le golfe du Lion. Donc depuis l'Antiquité, ça a toujours été un point de repère pour les navigateurs, cet endroit-là. Et donc les pêcheurs d'origine italienne qui se sont installés sur les bords de la colline, donc le quartier haut, c'est-à-dire la partie haute de la ville, contrairement à la partie basse qui sont le bord des canaux, qui sont la partie très, très bourgeoise, où il y avait les cabinets de médecins, de dentistes, les commerces, etc. Là où est le MIAM, d'ailleurs, qui est juste à côté de ce très bel hôtel qui s'appelle le Grand Hôtel. Et donc, voilà, moi, ma jeunesse au quartier haut, c'était donc l'école Paul Bert, d'abord. Tous mes anciens camarades viennent de cette école-là, l'école Paul Bert. C'est tout de suite repérable dans cette, ceux qui viennent de l'école Paul Bert, qui était tout à fait en haut de la colline. Et juste à côté du collège et du lycée Paul Valéry, où j'ai passé mon bac. Donc, cet endroit-là, mon père, donc, d'origine italienne, et ma mère, elle, d'origine espagnole, plus récente. Mon arrière-grand-mère, d'ailleurs, qui s'appelle, on en reparlera plus tard, parce qu'elle s'appelait Modeste Villespasa, qui m'a beaucoup influencé. Elle est morte, j'étais assez jeune, mais je l'ai bien connue. Et elle était une dame qui était venue avec son mari, qui était mort après, et qui a élevé seul ses trois enfants à Balrug-le-Vieux, qui est un tout petit village à côté de Sète, où j'ai eu mon atelier d'ailleurs, où j'avais installé mon atelier dans les années 80. Et donc c'était des jeunes très pauvres d'origine catalane.
Quand on pense à Sète, on pense souvent à Georges Brassens, à Paul Valéry, éventuellement au film d'Agnès Varda, La Pointe Courte, de 1955. Est-ce que toutes ces figures étaient présentes dans le paysage mental de votre enfance ?
Il faut rajouter Jean Villard aussi. Non, franchement, non, parce que j'avais une espèce de, pas de rejet, mais un peu quand même de tout ce qui était de cette, que ce soit d'ailleurs les fameuses joutes, ces fameuses compétition que se lancent les gens, soit les costauds, debout sur une tintin, ils essayent de se faire tomber avec une lance et un pavois, ça ressemble aux joutes médiévales, sur l'eau. Toutes ces traditions-là, ce qui m'intéressait, c'est le contraire, moi, mes seules respirations, c'était quand j'ai acheté mes magazines, mes hebdomadaires de bande dessinée, tout ça à partir de 10 ans. Je commence à avoir le souvenir à partir de 10 ans où, sur le chemin de l'école, j'avais justement la librairie, enfin le vendeur de journaux chez qui je m'arrêtais régulièrement.
Ce que vous avez gardé de cette, en revanche, acharnément, c'est l'accent.
Oui, ça, j'ai essayé de l'enlever, parce que quand je suis arrivé à Paris, on en reparlera aussi, ça, je l'ai vraiment vécu comme une agression extérieure, en fait, elle était intérieure, parce que c'était moi-même qui n'arrivais pas à contrôler cet accent, donc j'ai essayé, parce que j'ai même essayé de faire, je voulais faire du théâtre, du cinéma, alors à muet, ça marchait, mais en parlant, c'était tout de suite ridicule, je ne pouvais accéder à aucune dramaturgie avec l'accent que j'ai. Mais maintenant, et puis au bout d'un moment, j'ai décidé de plus faire l'effort, parce que c'est un effort... Je peux essayer de parler sans accent, vous voyez, comme ça, mais c'est un effort énorme pour moi.
Venons-en alors à l'intimité familiale. Vous avez souvent parlé de votre père. C'est la raison pour laquelle je voudrais commencer par votre mère, dont vous avez, je crois, finalement moins parlé. Est-ce que c'était une figure importante ?
Oui, très. Vraiment, c'est sur elle, puisque finalement, mon père a travaillé beaucoup. Donc on en reparle parce qu'en fait il était plutôt absent parce que non seulement il était employé SNCF mais à cette époque-là il y avait du travail donc il allait travailler comme docker sur le quai, il n'y avait pas assez de bras pour décharger tout le commerce de cette époque-là, c'est les années 60, oui c'est ça les années 60, fin des années 60, c'était encore les 30 glorieuses, il y avait beaucoup de travail tout ça. Et ma mère, j'en parle rarement parce que c'est quelqu'un de très discret, elle est d'origine donc comme je disais catalane, donc c'est des gens assez... un peu rude, dirions-nous, très discret, qui n'aiment pas qu'on parle d'eux, qui ont elle a très vite honte, tout ça, dès qu'on me voit, dès qu'on m'entend à la radio, elle écoute pour savoir si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est vrai que j'évitais souvent ce sujet-là, alors que c'est une femme de ménage toute sa vie, et je pense que son métier, sa vie, est resté au fond de moi aussi, comme une blessure humiliante aussi. J'ai eu du mal, et j'ai encore du mal aujourd'hui à penser ma mère comme une femme de ménage. Vous voyez, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai. Mais elle m'a beaucoup amené sur l'abnégation, le sérieux, et puis c'est vrai, j'étais destiné moi à vivre dans la rue avec les copains du quartier, et je détestais ça. Je détestais jouer au football, je détestais m'amuser avec les autres. Et ma mère, c'était parfait. Tout le monde me dit aujourd'hui que j'étais le mieux habillé quand c'était ma communion solennelle, ma communion privée. Donc, ma mère, toute son énergie la mettait sur moi, sur ma présentation. Elle voulait vraiment faire de moi un être très distinct de tous les autres du quartier. Ça, je m'en suis aperçu des années plus tard. Mais donc, c'était quand même une force de caractère qu'elle a toujours, heureusement, qui m'a beaucoup aidé finalement, qui m'a beaucoup aidé.
Votre père, donc, c'était le côté italien, d'origine napolitaine même.
Voilà, Marius Di Rosa, oui.
Marius Di Rosa. Est-ce que ce côté napolitain a joué un rôle dans votre formation ?
Certainement, bien que j'ai visité Naples juste l'année dernière. J'étais jamais allé à Naples jusque-là. Parce que c'est quand même des origines très lointaines. J'ai pas de cousins, j'ai pas vraiment de vraie famille sur place. Et mégalomane comme je le suis, je pensais qu'un jour on m'inviterait pour une exposition là-bas. Voyant que ça ne viendrait pas, c'est comme Venise, ça, j'y suis allé tout seul, avec ma femme. Et c'est vrai que j'ai eu ce choc de Naples, on dirait le quartier haut de Sète, mais avec des immeubles beaucoup plus hauts. Mais c'est la même texture des murs, les mêmes lumières, les mêmes gens, comme ils parlent, comme ils crient. C'est étonnant, il y a même certaines spécialités culinaires comme la tielle qui viennent des villages autour de Naples. Et mon arrière-grand-père était plus particulièrement de Torre del Greco, qui est un village à côté. Parce que les Sétois d'origine italienne sont beaucoup de Gaeta ou de Cetare, c'est des villages aussi autour de Naples. Et je pense qu'il y a une vraie relation entre cet endroit et Naples.
Et qu'en est-il du théâtre napolitain, des figures de Pulcinella par exemple, dont je me demandais si elles pouvaient avoir une influence sur vos personnages à vous ?
Peut-être, mais inconsciemment, parce que je les ai découverts beaucoup plus tard. C'est quand j'ai fait ce travail au Ghana, finalement, que je me suis beaucoup intéressé. Au début des années 90, on en reparlera, je me suis beaucoup intéressé au théâtre. Mais à cette époque-là, non, c'est surtout les expressions, la manière d'être. C'est rigolo, quand j'ai lu le premier tome des romans d'Elena Ferrante qui décrit Naples après la Seconde Guerre mondiale, j'ai eu des visions de set. Alors, est-ce que c'est un set que j'ai moi-même fantasmé, que j'ai remis en place dans mes souvenirs pour qu'il soit en adéquation avec mon histoire, ou est-ce que c'était vraiment ça? Mais j'ai revécu des moments les histoires entre les commerçants du quartier qui se connaissaient tous. Par exemple, on allait faire cuire les tielles et les pizzas chez le boulanger. Ma mère me racontait ça. Des choses qui ne se font plus aujourd'hui, qui n'existent plus, quoi. J'ai l'impression d'avoir vraiment vécu au siècle dernier, quoi.
Donc, votre père, revenons à lui, travaillait à la SNCF, ce qui fait que vous ne payez pas le train. Est-ce que vous avez fait beaucoup de voyages? Je crois que vous aviez une tante à Paris.
Ah, ça a été la chance de ma vie, parce que, bon, c'est vrai que une famille très modeste, mes parents gagnaient leur vie correctement, mais c'était très, très... extrêmement modeste, très humiliant. On habitait une toute petite maison. J'avais une chambre avec mon unique frère, Richard. Quand j'étais plus jeune, j'avais parfois honte, même réellement honte, d'amener des amis chez moi, tout ça. Il y avait une espèce d'humiliation liée à ça. Et mon père, lui, Marius Di Rosa, ne s'intéressait qu'à la chasse et à la pêche. C'est un homme, le contraire de moi, un homme de la nature, on en reparlera. Et donc c'est vrai que le peu de temps libre qui lui restait, il le passait à chasser et à pêcher sur les temps de taux, hein, puisque c'est une espèce, cette presqu'île entre les temps et la mer. Donc on a des zones humides extraordinaires, un peu moins aujourd'hui parce que c'est construit, mais des zones humides extraordinaires avec une faune, une flore vraiment fantastique. Et mon père était passionné par ça, donc la journée il travaillait ou la nuit, et le contraire il allait à la chasse ou à la pêche. Et à cette époque on pouvait vendre le fruit de la chasse et de la pêche, donc ça c'était des rentrées supplémentaires, parce que ma mère était obligée de faire des ménages aussi parce que les salaires étaient extrêmement bas. Donc tout ça faisait une espèce de cuisine sociale, esthétique particulière qui a donné ce que je suis.
Et votre frère Richard Di Rosa, dit Buddy, quels étaient vos liens dans l'enfance? Vous habitiez la même chambre?
Oui, très fort. C'était des liens très forts. C'était mon petit frère, déjà. Il était assez pénible, comme on dit à certains. Il était passage à l'école, etc. Alors que moi, j'étais un très bon élève. Jusqu'à la terminale, j'ai eu mon bac à émanation, tout ça, mais jusqu'à la seconde, j'étais un très très bon élève. Après, j'ai commencé à écouter du rock, et on en parlera, la vie est passée à une autre vitesse. Et mon frère, c'était un petit peu le révolté, il avait 3 ans de moins que moi, etc. Donc, voilà, c'était un peu, il focalisait un peu l'attention familiale sur ses mauvaises notes, etc. Mais nous avons été très proches. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'est beaucoup moins, mais on a été extrêmement proches. On a passé quasiment 17 ans avec lui. Quasiment dans la même chambre, dans un tout petit appartement. Donc ça crée des liens. Mais lui a fait de la musique réellement. Il a fait le conservatoire de Sète. Il a été batteur donc du groupe qui s'appelait Les Démodés avec Catherine Brendel et Robert Combas. Et bon, je sais pas, il a pas continué ce chemin. C'est vrai qu'à un moment donné, on en parlera, mais j'ai eu besoin de quelqu'un pour faire les volumes avec moi, pour faire des sculptures. Et qu'à ce moment-là, il a eu envie de faire ça. C'était toujours quelqu'un qui a été toujours dans le bricolage, le manuel, quoi. C'est pas un intellectuel.
Alors justement, je voudrais que vous nous parliez maintenant de vos premiers regards sur des œuvres d'art. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous avez toujours été attiré par la pratique du dessin et de la peinture? Et quelles ont été finalement les premières images que vous avez regardées?
Mais en fait, les premières images, on s'aperçoit, c'est ceux qui me constituent. Je n'ai pas vu d'image dans un musée avant d'avoir 16-17 ans, je pense. Et mes images, c'était la bande dessinée, l'illustration. Au tout début, ça a été ça. C'était les hebdomadaires Spirou, Tintin, et puis Pif Gadget avec Hugo Pratt, avec Jean-Claude Forest, qui m'a énormément marqué. Je me rappelle, c'était mystérieusement dès midi et soir, cette adaptation de Jules Verne que Jean-Claude Forest a réalisé dans les années 70, qui paraissait dans Pif Gadget, a fait des choses étonnantes qu'on verrait plus aujourd'hui, des expériences étonnantes. Et puis, bien sûr, Pilote. Et puis, très vite, quand j'ai 13-14 ans, Métal Hurlant. Donc, c'est vraiment la bande dessinée qui m'a constitué, qui a formé mon univers visuel. Réellement, ça a été celui-là. Et aussi, quand je commence à m'intéresser à la musique, les pochettes, bien sûr, les pochettes des 33 tours.
Est-ce que, dans votre maison, vous aviez la télévision?
Oui, on a eu une des premières télévisions noir et blanc du quartier. Oui, tout à fait.
Il y a des émissions qui vous ont marqué de cette époque?
De cette époque, oui, une émission qui était liée à la bande dessinée qui s'appelait du Tac au Tac, où on voyait tous les dessinateurs qui dessinaient en direct et qui se répondaient en direct. Ça m'avait fait rire. Mais c'est vrai que j'étais très loin des émissions sur l'art, sur la littérature, sur tout ça. Jusqu'à ce que je sois en seconde, jusqu'à 14-15 ans, c'était vraiment la bande dessinée qui, c'était mon focus, c'était presque la seule chose qui existait pour moi.
À Sète, en 1970, le musée Paul Valéry ouvre ses portes. Est-ce que c'est un endroit que vous avez fréquenté ?
Ah, c'est un endroit que je détestais. C'était vraiment on disait qu'il y avait les pipes cassées de Brassens et les vieux manuscrits de Paul Valéry. On exposait quelques artistes locaux. Alors, c'est pas que je suis du tout contre les artistes locaux, parce que souvent, moi-même, on me dit, artiste, c'est toi. Ça énerve beaucoup de gens autour de moi qu'on dise artiste, c'est toi. Mais c'est vrai. Et donc, oui, c'était le sommet, musée de tout ce que je n'aimais pas, de tout ce que représentait pour moi l'art. L'art représentait ça. C'était vraiment presque la peinture Ringard. Et puis très vite, c'est devenu la performance ou l'installation ennuyante, quoi. Dès que j'ai eu 13, 14 ans, pour moi, l'art, c'était ça. Donc j'ai toujours été, jusqu'à ce que je rentre aux Beaux-Arts de Sète, on le verra après avoir passé le bac, j'ai toujours été assez loin vraiment de ce milieu de l'art qui me paraissait... très lointain, pas du tout en parallèle avec mon époque, avec ce que je vivais.
Mais vous saviez que vous vouliez être artiste ?
Oui, j'avais costa solution. Moi, je détestais sortir jouer au football dans la rue, donc je restais chez moi. Ma mère m'avait acheté un très beau secrétaire dans lequel je pouvais ranger tous mes papiers à dessin, donc j'étais toute la journée sur ce secrétaire à dessiner. Mais je dessinais des narrations, je ne faisais pas des dessins seuls. Ou... J'aurais pu avoir cette idée de faire des natures mortes ou des portraits... Comme un pasteur qui, jeune, faisait des portraits. Mais non, pas du tout. Moi, si je voulais raconter des histoires... Alors, j'ai jamais été très doué. Je dessinais très mal. Et c'est comme ça que ma mère m'a inscrit aux Beaux-Arts de Sète, quand je devais avoir 10-12 ans. Voilà, et c'est cette passion du dessin, plus que de l'art. Et le dessin, pour moi, c'était la vie. Et c'est vrai qu'à la Manessier, c'est aussi très vite transformé. On en parlait aussi de mes venues à Paris. Très rapidement, je suis allé à Paris, car je payais pas le train, etc. Et donc, j'y allais souvent. C'est le monde du cinéma aussi, qui, à ce moment-là, s'est ouvert. C'est une espèce de continuité de cette appétence pour la bande dessinée que j'avais.
C'est quoi le cinéma que vous avez découvert à ce moment-là ?
Eh ben, à ce moment-là, j'ai 14-15 ans, je commence à aller à Paris tout seul, et puis je découvre Pasolini, Fellini, Scorsese, Altman, Visconti, Tarkovsky, enfin tout le cinéma, et surtout j'arrive à voir des choses que Kenneth Anger, par exemple, que j'ai vu, j'avais 16 ans.
Cinéaste underground américain.
Ouais, qui était, je me demande comment, alors aujourd'hui il est très à la mode, il expose chez Anesby, etc., mais je me demande comment, quand j'avais 15-16 ans à 7, je pouvais être au courant qu'il y avait des séances de films de Kenneth Anger qui étaient quand même très rares, puisque c'est un cinéaste underground, un peu sataniste, etc., qui aujourd'hui a son heure de gloire, extrêmement important, puisque beaucoup le cinéma et l'art contemporain l'ont pillé, et la musique l'ont pillé, se sont influencés de lui d'une manière hallucinante. Moi aussi, d'ailleurs. Hein. Mais je me demandais comment c'est qu'on pouvait être au courant, à 7, sans internet. J'avais le téléphone, mais enfin, on ne s'en servait pas. Le téléphone, c'était un truc fixe dont se servaient les parents pour les choses urgentes. On ne s'en servait pas pour appeler les copains, pas du tout. La télévision, il y avait très peu d'émissions. Il y avait des magazines. Et c'est vrai que j'ai continué à acheter des magazines. Les magazines de bande dessinée ont vraiment formé ma toute jeunesse. Et puis après, ça a été les magazines d'art, les magazines de culture générale, et même les quotidiens.
C'était à la Cinémathèque que vous alliez voir Kenneth Anger ?
Non, c'était, je crois que c'était un cinéma qui était à Saint-Michel. Ben, je me souviens pas du nom, où il y avait des régulièrement. Il y avait aussi un autre cinéma, c'était la Pagode aussi, je me souviens, où il y avait des formidables films. C'était vraiment merveilleux, la ville du cinéma. Et puis cette époque-là, bien sûr, ce qui me passionne en littérature, très vite, c'est la science-fiction. Hein, très très vite. Très vite, le cinéma de science-fiction. Ce qu'on appelait le cinéma bis. Alors ça, j'étais complètement passionné par tout ce qui était fantastique. Et puis... ce cinéma, qui aujourd'hui est du blockbuster, quand j'avais 15-16 ans, c'était vraiment un cinéma à part. Un Star Wars allait sortir. C'est à partir de Star Wars où ça devient... Et là, on est très heureux, parce que Star Wars, Alien, tout ça, Blade Runner, fin des années 70, début 80, là, on est très heureux, parce que ça, en fait, la science-fiction, elle commence à être prise au sérieux, avec des grands budgets et tout ça. Mais en même temps, c'est presque... Finalement, aujourd'hui, je m'aperçois que c'est le début de la fin. Il y avait tout ce côté d'entre-soi dans lequel on vivait, en lisant l'écran du Fantastique, en lisant SFX, ou en lisant tous ces magazines. On était on se sentait entre amis, finalement.
Il y a aussi la bande dessinée américaine, Robert Crumb, Gilbert Shelton, que vous avez découvert.
Oui, d'abord, surtout, Jack Kirby et Steve Ditko. D'abord, les comics de Marvel et de DC. Surtout Marvel, à l'époque, parce que les personnages... étaient près de nous, c'était des ados. C'était vraiment Marvel, ça a été un peu la bande dessinée pour ados, comme le rock'n'roll a été la musique pour adolescents. Et des dessinateurs comme ça m'ont beaucoup influencé. Et puis après, c'est vrai que très vite, tout l'underground, avec Crumb, Shelton, mais aussi Spen Rodriguez, Moscoso, enfin j'en passe, il y a vraiment tout. J'allais, je me souviens, ça aussi, c'est des moments très forts pour moi, quand j'avais 16 ans, j'allais dans une librairie, J'allais d'abord à la librairie du Puy, qui était au coin de la rue Dante et de la rue du Boulevard Saint-Michel, du Boulevard Saint-Germain, qui n'existe plus d'ailleurs.
Donc à Paris.
À Paris. Et il y avait une autre librairie qui existe en soi, qui s'appelle la librairie Parallèle, qui est vers la rue de Seine, et qui, où je trouvais tous les comics underground, alors les Zap Comics, avec des choses incroyables que je trouvais là. J'avais 15-16 ans. Ça a été, aujourd'hui, avec le recul, ça a été extrêmement important.
Et en 77, vous avez même créé avec Robert Combas une revue dite assemblagiste qui s'appelait Bateau.
Voilà. Alors c'est vrai que on se rencontre déjà avec Combas, on se rencontre, moi je devais avoir 12 ans, lui devait avoir 15 ans parce qu'il a 3-4 ans de plus que moi. Et on se rencontre au Beaux-Arts de Sète, où c'était le mercredi après-midi où on mettait les enfants pour parce que moi tous les enfants. Et lui était très doué en dessin, déjà il savait super bien dessiner. Et après on continue à se retrouver chez les disquaires. Il y avait ce qui se passait à Sète, c'est que quand on commence à être adolescent, il y a un grand ennui qui s'installe. Parce qu'il n'y a pas de musée, il n'y a pas un centre d'art, il n'y a pas de théâtre. Il y avait des maisons des jeunes, heureusement. Maisons des jeunes de la culture, c'est une mairie communiste. Et c'est vrai que grâce à ça, on a pu accéder à des Ronéo, à des choses pour imprimer. Et tellement on s'ennuyait qu'on avait décidé, surtout, on avait décidé une chose, c'est qu'on devait produire des choses. Contrairement à ce moment-là, à tous ceux de notre âge qui essayaient de passer le temps, dirions-nous, le mieux possible, ça. Nous, on voulait produire quelque chose. Et le premier effet, ça a été de faire une revue. Moi, c'était ma passion aussi. Et donc, on a fait une revue avec ce qu'on avait, entre les doigts. C'est-à-dire, il y avait un gadget, c'était des petits soldats qu'on avait récupéré, une boîte de soldats, etc. Tout ce qu'on pouvait trouver en 5 exemplaires, on le mettait dedans. Et donc, on a créé ça en 77 avec Catherine Brendel. Et on a fait, jusqu'à 77, on a fait 4-5 numéros, comme ça, de bon an mal an. D'ailleurs, quand on est arrivé à Paris, en 81, on l'a vendu sur le parvis de Beaubourg et ça a fini au poste de police. C'est encore une anecdote. Mais 77, c'est très important, cette année-là aussi, c'est l'année où j'expose au Festival d'Avignon, je crois que c'est l'été 76-77. J'ai rencontré. En fait, moi, ma vie, ça a été aussi des. Je pense que c'est pour beaucoup de gens, c'est important, c'est des rencontres. Parce qu'à 7, moi, ça a été les rencontres qui ont été très importantes. J'ai rencontré deux personnes, j'avais 15 ans, je crois que je vais être en seconde. Un qui est un acteur, Daniel Gégou, qui a été. Donc, qui passait à lycée la pièce dans laquelle il jouait au théâtre, et après les acteurs venaient, le metteur en scène venait discuter au lycée. Donc c'était formidable, ça, moi, c'est les choses dont j'ai un souvenir très fort et très, très ému. Et donc je sais pas, après je discute avec lui, etc. Et puis on reste copains. Et lui me fait découvrir Antonin Artaud, me fait découvrir David Hockney, me fait découvrir des choses comme ça. Et un autre que je rencontre lui plutôt sur le parvis du lycée, qui est Daniel Vermeil, qui revient de Nice, il vivait chez les Rolling Stones, qui était à ce moment-là à Nice, tout début des années 70, on sait que les Rolling Stones se sont réfugiés à Nice pour, c'est pas Bigger's Banquet, c'est, je m'en rappelle plus, ils ont enregistré leur double album, qu'ils ont enregistré là-bas, et donc, Auréolé, c'était un des créateurs de rock'n'folk, un des premiers, et lui, bien sûr, me fait découvrir Lou Reed, et puis toute Lou Reed, le Velvet Underground, en fait, toute cette mythologie du rock, me traduit les textes, et m'introduit à la littérature, à William Burroughs, à la Beat Generation, à Ginsberg, et tout ça. Donc, grâce à ces deux passeurs, à 15 ans, je fais un bond énorme dans ce que j'ai envie de voir, dans ce que j'ai envie de réaliser, dans ce qui m'intéresse, en agrégeant donc tous mes souvenirs de toute ma passion pour la bande dessinée, pour l'image dessinée, en passant par la musique, très important aussi. L'année 77, il y a le festival punk de Mont-de-Marsan, ça c'est un truc énorme aussi pour moi. Ça veut dire que vous avez le droit de faire ce que vous avez envie. Si vous avez envie de faire quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir du matériel formidable, on n'a pas besoin d'avoir des amplificateurs, des guitares formidables, etc. Parce qu'on était dans une époque aussi, début des années 70, on était submergé par le bienfait, Genesis, Pink Floyd, en fait, par la musique bien faite, en fait, soi-disant bien faite, tout ça, on en avait marre. On avait marre de ça, moi j'avais envie de brutalité, d'expression directe. Et c'est vrai que, le mouvement punk m'a vraiment apporté ça, quoi.
Vous avez fait de la musique ?
Non, moi, non, incapable. Incapable totalement. Oui, je voulais être musicien et acteur avant de vouloir être artiste. Mais j'ai d'abord essayé de chanter. Je n'avais aucun sens de la mélodie. Après, j'ai essayé de jouer de la guitare. Je n'avais aucun sens du rythme. J'ai essayé de jouer de la basse, une catastrophe. Et de la batterie, une catastrophe. Donc, je me suis arrêté. Et par contre, j'ai organisé quelques concerts des Démodés, qui était le groupe de mon frère Richard avec Robert Combas et Catherine Brendel. J'ai organisé quelques concerts d'eux. Donc, j'ai été un peu manager, dirions-nous. Mais enfin, pas plus que ça.
Il y a une autre figure dont on n'a pas parlé, qui est quand même une grande figure sétoise, c'est Pierre Soulages. Est-ce que vous avez eu des liens avec lui ?
Très peu, mais par contre, très beau. Je crois que c'était au début des années, je devais avoir 24-25 ans. Je revenais des États-Unis déjà, j'étais à 7, mais j'étais très jeune. Il m'a invité dans sa belle maison sur le Mont-Saint-Clair à boire un verre, à discuter avec lui, etc. Il avait beaucoup regardé mon travail parce qu'il m'a sorti des choses. Il m'a sorti le fameux poème de Rimbaud, j'aime les romans aux orthographes idiotes, les panneaux, les enseignes, etc. Que je ne connaissais pas d'ailleurs, que j'avais totalement passé. Voilà. À part ça, après, c'est des générations tellement lointaines. Enfin, j'ai beaucoup apprécié ça, son ouverture, son regard, tout ça. Mais c'est tellement loin de moi. Aujourd'hui, je l'ai rencontré, je le croise dernièrement, ces dernières années, je le croise de temps en temps. Et peut-être, il m'est moins distant qu'à l'époque-là. Quand j'avais 25 ans, ça me semblait tellement au-delà de. C'était même pas quelque chose que je me posais pas en contre. Je détestais, pas du tout, mais c'était comme une espèce d'autre planète, monde étranger, très loin de ce qu'à ce moment-là j'essayais de faire, quoi.
Si on revient un petit peu en arrière, donc vous passez votre bac scientifique, vous vous inscrivez au concours préparatoire, enfin à l'école d'art de Sète, oui. Pour préparer le concours de l'école des arts décoratifs. Est-ce que ça a été facile d'expliquer à vos parents que vous alliez devenir artiste?
Non, ça n'a pas été facile au début parce qu'ils pensaient que j'allais faire médecine, parce que c'était le rêve de tous les prolétaires. D'ailleurs, mon rêve aussi, c'était un rêve que j'avais aussi, être médecin ou pilote d'avion, ça aurait été les deux autres métiers. J'avais pas su peindre un tout petit peu, j'aurais peut-être fait ça. Mais là, j'ai eu la chance énorme. Le Beaux-Arts de Sète avait été créé par Madame Mancier, une dame formidable, prix de Rome féminin. D'après-guerre, je pense que ça ne devait pas être si commun, très engagé, qui s'était battu avec la mairie pour créer cette école des Beaux-Arts, qui était une villa magnifique qui avait été donnée par un médecin communiste qui avait donné ça en héritage à la mairie. Et elle avait créé cette petite école préparatoire qui était vraiment assez exceptionnelle, maintenant avec le recul. Aujourd'hui, je regarde les choses avec le recul, avec comme les choses sont devenues, comme elles étaient. Il n'y avait pas de Beaux-Arts, je ne sais pas, il y avait les Beaux-Arts de Montpellier, et c'est tout, qui étaient déjà des Beaux-Arts d'un certain niveau. Et elle a rencontré mes parents, et leur a expliqué que les métiers de l'art, ce n'était pas que artiste maudit, et qu'il y avait plein d'autres métiers dans l'art, qu'on pouvait faire de la publicité, de la décoration, donc elle les a beaucoup rassurés, et mes parents m'ont beaucoup soutenu, parce que déjà cette année-là, en plus, c'était une année que j'ai passée, j'ai passé plus à faire la fête qu'à être aux Beaux-Arts. C'était vraiment, je préfère pas raconter cette année délirante. Et pour m'installer à Paris, pour aller à Paris, mes parents, ça a été très difficile pour eux, donc ils m'ont beaucoup soutenu financièrement.
Donc l'année suivante, vous partez à Paris. Robert Combaz vous retrouve, il arrive quelques années après vous. C'est vraiment un nouveau tournant de votre existence. Et cela, Hervé Di Rosa, on en parlera demain.
On va essayer, merci.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Anaël Pijat avec Hervé Di Rosa. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Sébastien Huel, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.